Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Un livre au sommaire de Mémoire vive, aujourd'hui, La fin de l'innocence, sous-titre La Pologne face à son passé juif, livre paru chez Autrement dans la collection Frontières. Jean-Yves Potel, bonjour.
Bonjour.
Commençons par le début, Jean-Yves Potel. Pourquoi ce titre, La fin de l'innocence ?
C'est un titre qui est d'une certaine manière un peu ironique, qui est discuté d'ailleurs en Pologne, qui veut dire quoi ? Qui veut dire deux choses à la fois. La première chose, c'est que les Polonais qui habitaient le pays où les Allemands ont réalisé la Shoah, c'est-à-dire où ils ont tué tous les Juifs, les Polonais étaient témoins de ce massacre, de cette catastrophe, et ils n'ont pas eu une attitude, ils ne sont pas innocents face à ce crime. Ça, c'est la première constatation, c'est-à-dire c'est une affirmation de ma part. Et la fin d'innocence, c'est aussi une affirmation qui vient dans l'autre sens, qui vient du fait que aujourd'hui, dans le débat public polonais et par les prises de position des autorités polonaises et de ses intellectuels, on considère que effectivement il y a une discussion sur la co-responsabilité morale et politique des Polonais face à la Shoah. Donc c'est et c'est une rupture avec une vision traditionnelle de l'histoire où le peuple polonais est considéré comme une des grandes victimes de la Seconde Guerre mondiale, pure, qui n'avait absolument rien à se reprocher, parce que, comme chacun sait, il n'y a pas eu de gouvernement de collaboration en Pologne pendant la guerre.
Jean-Yves Potel, avant de rentrer dans le corps de votre ouvrage, restons un instant sur ses premières lignes, sur son prologue. Vous prenez soin de préciser votre position, la position de l'observateur, et vous prenez soin de préciser que vous essayez, tant bien que mal, dans vos nombreux voyages en Pologne, où vous avez abordé toutes ces questions avec vos interlocuteurs, de prendre un point de vue trop communautaire sur cette question.
Oui, parce que je suis... Bon, d'abord, ça fait à peu près une trentaine d'années que je fréquente la Pologne. J'y ai habité pendant une dizaine d'années, enfin plusieurs fois. Les huit dernières années, j'étais là-bas. Et j'ai toujours rencontré, pendant très très longtemps, une sorte d'opposition entre deux mémoires sur la Seconde Guerre mondiale. Une mémoire, disons, qu'on pourrait dire polonaise et une mémoire qu'on pourrait dire juive. Et avec, effectivement, une vision que je considère souvent à un certain... communautarisme dans la vision de voir les choses tant par les Polonais que par les Juifs. Et mon idée, c'est que je me suis aperçu que depuis une...
Et on vous demandait de prendre parti, de
choisir votre camp. Oui, bien sûr, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Alors évidemment, quand j'étais avec des Juifs, je défendais les Polonais. Quand j'étais avec les Polonais, je défendais les Juifs. Moi, c'est une façon de parler parce qu'en fait, je crois que il fallait pas rentrer dans cette concurrence des mémoires, même si chaque peuple à sa mémoire et son expérience de cette époque, et qui sont différentes. Mais je ne voulais pas rentrer dans cette concurrence. Je voulais au contraire essayer de comprendre. Et en même temps, je me suis aperçu très vite que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, en Pologne, il y a des gens, et de plus en plus importants, qui veulent construire une mémoire commune. Une mémoire commune, ça ne veut pas dire une mémoire unique. Mais c'est une mémoire commune, c'est-à-dire une mémoire dans laquelle on s'assume l'un l'autre et on assume l'un par rapport à l'autre son passé. Et ça, c'est un point qui me paraît très important et qui est le sens de ce livre, c'est-à-dire j'ai essayé d'enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passait depuis que la démocratie existait dans ce pays et qu'est-ce qu'on fait sur ce thème-là.
Parce que la date de sortie de cet ouvrage, Jean-Yves Potel n'est pas innocente, nous sommes en 2009, 20 ans après la chute du mur de Berlin et donc le retour de la démocratie en Pologne, qui correspond à une libération de la parole.
Oui, mais ça fait 20 ans, ça fait une génération. Je discute avec des jeunes qui sont nés en 88 ou 89, quelquefois. Donc ça fait beaucoup de temps. Et deuxièmement, je sais que depuis toujours, il y a eu en Pologne un courant dans l'intelligentsia, dans une partie de la société, qui était favorable à cette démarche. Mais ce courant était toujours très très minoritaire, ou du moins ne pouvait pas s'exprimer ouvertement à cause de la censure, à cause du système lié au système communiste. Et depuis 89, tout est ouvert. Donc on peut discuter de tout, on peut tout dire. On peut être antisémite comme on peut être le contraire, comme on peut lutter contre l'antisémitisme. Et donc, il s'est trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de cette tâche, de ce thème, une de leurs activités centrales. Donc et ça a changé. Vous savez, je prendrai un exemple pour vous donner une idée. En 1990, Lech Walesa a été élu président de la République. Lech Walesa, c'est l'histoire de Solidarność. Pendant cette campagne, il y a des politiciens qui ont essayé d'ailleurs, dans l'entourage de Walesa d'ailleurs, d'utiliser des thèmes antisémites pour pouvoir gagner des voix.
Et pour disqualifier son principal adversaire.
Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas très bien marché. D'ailleurs, Walesa lui-même s'en est détaché après et est allé tout de suite à la Knesset faire un grand discours contre l'antisémitisme en Pologne. Mais ce qu'il a fait aussi, que dont on sait moins, c'est qu'il a financé avec sa fondation immédiatement un très beau monument qui a été fait à Kielce pour l'anniversaire de l'assassinat de 42 juifs par des Polonais à Kielce en 1946. Et la fondation Walesa a financé ce monument. Donc c'était déjà un geste comme ça qui m'a intéressé, parce qu'il y a beaucoup de gestes qui ont commencé de ce genre. Ensuite, il y a des prises de position officielles, mais je crois que c'est ça qui montre que tout de suite, les gens se posaient des questions sur ce problème.
Alors, Jean-Yves Potel, vous évoquez Lech Walesa, président polonais. Il y a une date importante, fondamentale, même dans la rupture du discours officiel et dans la création d'une mémoire commune. C'est la date du 10 juillet 2001. Vous y revenez longuement dans votre ouvrage, La fin de l'innocence, à l'occasion de la cérémonie du 60e anniversaire du massacre de Jewanne, une petite ville au nord-est de la Pologne. Et là, nous sommes aux côtés du président Kwasniewski, qui porte la kippa pendant la cérémonie et qui prononce un grand discours télévisé. Et je reprends certains de ses termes, hein, j'ouvre les guillemets, c'est lui qui parle. « Un discours de vérité ne peut pas corriger ce qui est advenu, mais seule la vérité pourra purifier les blessures de la mémoire. »
Oui, ce discours de Kwasniewski, qui était donc le deuxième président de la République polonaise, de Pologne, élu démocratiquement après Walesa et avant l'actuel, il a été élu deux fois. Ce président, après un vaste débat dans la société, a fait ce discours qui a tout à fait la même valeur pour les Polonais et pour les Juifs polonais et pour la mémoire juive que le discours, par exemple, de Jacques Chirac sur la rave du Veldiv. C'est exactement le même type de discours, en disant à peu près la même chose et en étant extrêmement clair sur la responsabilité des Polonais dans ce meurtre, qui était un meurtre qui a eu lieu en 1941, alors que les Soviétiques qui occupaient précédemment cette région quittaient la zone, et avant que l'armée allemande s'installe. Il y avait bien sûr quelques commandos qui passaient par là, mais il y a eu des pogroms, et dans cette zone, il y a eu à peu près une vingtaine de pogroms, dont deux très importants, dont celui d'Yedvamné, où à Yedvamné, on a brûlé vif un millier de Juifs dans une grange. Quand je dis « on », ce sont les voisins polonais de ces Juifs, des gens qui vivaient dans le même immeuble. Il n'y avait même pas de quartier juif à Yedvamné. Il y avait à peu près autant de Juifs que de Polonais, et ils vivaient ensemble depuis toujours, ils partageaient tout. Et donc, ils ont été rassemblés par leurs voisins, enfin pas par tous, mais par une grande majorité, et ils ont été assassinés. Et donc, ce geste, ce phénomène-là, qui est un moment très grave, qui, évidemment, est une tâche très forte sur la pureté et l'innocence du peuple polonais vis-à-vis de ça, a entraîné un débat très virulent et très fort et très intéressant, avec mobilisation des historiens, d'intellectuels, une enquête qui a été faite par les autorités polonaises, et on a établi le détail. Tout avait commencé par un film et par un livre. Le livre, vous le connaissez, c'est celui de Yann Gross, Les voisins, qui existe en français d'ailleurs, qui est publié chez Fayard, si je ne m'abuse. Mais après tout cela, la sanction, ça a été cette grande manifestation officielle de repentir et au moment de l'anniversaire. Et je dois dire que ce moment, c'est une rupture d'une certaine manière, parce que ça montre... C'est un peu comme le discours du Veldiv, c'est-à-dire c'est un moment clé, mais c'est l'aboutissement d'un processus qui était en cours depuis de nombreuses années. Et on peut dire aujourd'hui que du point de vue des prises de position officielles, tous les présidents de la République ont confirmé cette prise de position, et même les autorités locales dans beaucoup de cas. Parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations, de mémoires, notamment sur l'histoire de l'anniversaire de la liquidation des ghettos, l'histoire des communautés juives, etc.
Mais alors, est-ce que c'est une rupture dans le discours officiel ? Oui, évidemment, c'en est une. Mais quel est le poids de ce nouveau discours officiel en Pologne dans la population polonaise elle-même?
Écoutez, je crois qu'il se passe deux choses en Pologne aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années. Il se passe d'abord deux phénomènes qui sont concomitants, qui sont à la même source, mais qui sont un peu différents. Le premier phénomène, c'est la prise de conscience par une partie grandissante de la population, à commencer par la jeune génération, que, notamment dans les grandes villes, une part importante de cette population, avant-guerre, était juive. Donc, il y a une prise de conscience du passé juif de la Pologne. C'est-à-dire que...
3 200 000 juifs entre deux guerres en
Pologne. Oui, c'est ça. Il y avait 3 200 000 juifs. Ça représentait à peu près 8% de la population du pays. Mais dans certaines villes comme Varsovie, Cracovie, Lwów ou Vilnius, c'était 20, 30 ou 40%. Et donc, c'était une population essentiellement urbaine ou dans des petites villes. Et donc, dans une grande ville comme Varsovie, par exemple, on voyait des juifs partout. Il y avait 35% de juifs. Donc... Quand vous allez à Łódź, par exemple, je le prononce à la française, vous avez le plus grand cimetière de la ville de Łódź, un des plus grands, c'est un cimetière juif, qui est un des cimetières les plus grands du monde, comme cimetière juif. Et pour les jeunes et les gens de Łódź, il est clair que ces gens font partie de leur histoire. C'est eux qui ont construit la ville, c'est leur histoire. Donc ce sont pas des étrangers, c'est leur histoire.
Mais qu'il s'agit de redécouvrir.
Il faut la redécouvrir. On la redécouvre. Il faut l'honorer. Il faut aussi respecter ces morts. Ils font partie de nous. Ils sont notre histoire. Donc, ils doivent avoir des bons cimetières. On doit compter leur histoire. On doit raconter leur histoire aux jeunes, etc. Ça, c'est le premier, mouvement. Et le deuxième mouvement, et ça, c'est un mouvement qui est assez profond, qui touche la jeune génération, qui se traduit par des associations, par beaucoup d'activités. Et le deuxième mouvement, ce sont des débats. Des débats sur la mémoire. Où, évidemment, il y a des conflits de mémoire. Et donc là, il y a une question qui a été mise sur le tapis de façon centrale par l'affaire de Yedvamné, qui était déjà présente dans le débat sur Kielce, par exemple, ou qui était déjà présente dans le débat sur la Seconde Guerre mondiale, ce qui est celui de l'attitude de la population polonaise au moment du massacre des Juifs, c'est-à-dire les Juifs polonais qui ont été, pour leur grande majorité, tous assassinés en 42-43, essentiellement en 42. Donc, et ils ont tous été assassinés, ils ont été tous mis dans des ghettos à partir de 41, et ils ont ensuite été même 40, et ils ont été tous les ghettos ont été liquidés entre 42 et 43. Et la grande majorité des Juifs polonais a été assassinés pour à peu près 1 800 000, d'après les chiffres que l'on sait maintenant, dans des camps d'extermination, c'est-à-dire 300 000 à Auschwitz, 800 000 à Treblinka, près de 500 000 à Belzec, et à Majdanek, à Chełmno, etc. Donc ça, c'était au gaz et la mort industrielle. Et en même temps, il y a à peu près, on peut considérer, il y a à peu près 500 000 juifs qui ont été tués par l'épuisement au travail et dans les ghettos, par la faim et la maladie, et 300 ou 400 000 qui ont été tués par balles, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont été liquidés sur place. Vous savez, quand on a liquidé, par exemple, le ghetto de Cracovie, à Cracovie, il y a 15 ou 20 000 juifs, 18 000 juifs qui ont été envoyés à Belzec en particulier pour être exterminés, mais quand ils ont chargé ces 18 000 juifs, quand les SS les ont chargés dans des trains, ils ont tué 2 000 juifs sur place. Sur la place où aujourd'hui il y a le monument, 2 000 personnes ont été tuées. De façon totalement sauvage par les SS. Et si vous voulez, les Polonais ne pouvaient pas ne pas savoir ça. Ils le savaient, ils le voyaient. Bon, ils pouvaient probablement rien faire là, à ce moment-là. Et probablement, ils étaient impuissants face à des massacres comme ça. Quand on vous construit dans le champ à côté de chez vous, Belzec, je ne vois pas ce qu'on peut faire. On ne va pas se mettre à faire la guerre aux Allemands. Mais il y avait quand même une très très forte culpabilité de ces gens par rapport à ça, qui avaient peur. Et donc, on a eu toute une discussion qui est sur ce thème qu'on pourrait appeler la responsabilité du témoin, ou la co-responsabilité du témoin. Et donc, ça prend deux questions. Première question...
Donc, il va bien au-delà d'un antisémitisme de la population.
Non, c'est, oui, mais c'est pas la question... Oui, parce que la question...
Il y a deux questions différentes.
Oui, parce que l'antisémitisme, si vous voulez, c'est une... Bon, il y a des juifs qui ont été aidés par des Polonais. Il y a beaucoup de Polonais, par exemple, qui sont des justes. Mais il y a aussi des juifs qui ont été dénoncés par des Polonais. Et il y avait un climat relativement antisémite dans la société polonaise. Pas partout, mais quand même, qui était très fort. Bon. Mais ça, c'est pas, ça ne suffit pas. C'est pas simplement ça, c'est la question. Parce que l'antisémitisme, il existait aussi ailleurs. La question, c'est, il y a deux questions qui sont soulevées. La première question, c'est, est-ce que des Polonais sont responsables de meurtres des Juifs ou de dénonciations de Juifs? Donc, cette question est aujourd'hui avérée. Bon, évidemment, sur les 3 millions de Juifs polonais qui ont été tués, les Polonais, c'est pas les Polonais qui les ont tués, ce sont principalement les Allemands. Mais il y a quelques dizaines de milliers de Juifs qui probablement sont morts parce qu'ils ont été soit dénoncés, soit non aidés, soit tués, comme on l'a vu à Yedvamné, par des Polonais. Donc il y a des Polonais qui sont coupables. Donc ces Polonais coupables, ou même qui ont été vendus, parce qu'il y avait des maîtres chanteurs, etc. Donc tout ça est étudié, est dénoncé, c'est une première question. Mais l'autre question, c'est beaucoup plus vaste, c'est... vous êtes témoin, vous avez une sorte de responsabilité morale par rapport à ce qui se passe. Et or, les Polonais ont plutôt eu tendance, notamment à partir de 1942, à avoir une certaine indifférence vis-à-vis de ce meurtre.
Et il y a certaines parties de la résistance polonaise qui ont pourtant fait passer le message auprès du gouvernement polonais en exil, auprès d'autres autorités, qu'il se passait quelque chose, à savoir la Shoah sur le territoire polonais
oui.
pendant la guerre.
Là, vous me parlez, oui, mais là, je vous parlais de la population en général. Mais il est évident qu'il est vrai que le gros de la résistance polonaise, c'est-à-dire celle qui était autour qui était reconnue par Londres, par le gouvernement polonais en exil, il y avait d'ailleurs des juifs du Bund qui étaient dans le comité national polonais qui étaient à Londres. Évidemment, et Karski, par exemple, dont on parle de temps en temps aujourd'hui.
Nous en parlerons à ce micro.
Oui, ben justement, Karski a été un des grands émissaires de la résistance polonaise. C'était pas une initiative personnelle, c'était une initiative de la résistance polonaise pour faire connaître au monde ce qui se passait sur le territoire polonais. Mais, ça c'est évident, la résistance a joué un rôle important pour transmettre le message et a fait ce qu'elle a pu pour faire connaître. Mais, on peut discuter de façon plus nuancée sur la façon dont la résistance a aidé les résistants juifs. Elle les a aidés, à mon avis, plus que ce qu'on dit en général, mais ça a été aussi peu. Et il faut dire aussi qu'elle-même n'était pas non plus très bien, à ce moment-là, très forte, parce que je rappelle qu'au moment de l'insurrection du ghetto de Varsovie, peu après, l'armée, l'AK, a été décapitée par les Allemands, et ils ont arrêté tout l'état-major de l'AK en Pologne. Donc ça, c'était pas non plus une situation qui était excellente. Mais la question qui est posée, qui est soulevée notamment par le discours du maire de Łódź, pas de Lodz, par exemple, ou par beaucoup d'historiens, c'est s'il n'y avait pas eu cet antisémitisme général dans la Pologne d'avant-guerre, si on n'avait pas perçu les Juifs comme des étrangers, comme un autre peuple qui faisait sa guerre avec les Allemands, peut-être que le climat aurait été différent et peut-être que ça aurait été plus facile pour les Juifs de se sauver. Parce qu'il reste quand même une grande question. La Pologne a construit probablement une des plus grandes résistances d'Europe avec l'AK, l'État clandestin, etc. Pourquoi cet AK et cet État clandestin n'étaient pas polono-juifs? Bon, évidemment, il y a des tas de raisons qui sont liées à la culture, qui sont liées aussi à la politique des Allemands, qui sont liées à la répression, qui sont liées à la difficulté, mais c'était quand même un vrai problème. Et donc là-dessus, il y a une discussion, qui est une discussion très approfondie du côté des historiens, du côté de l'opinion. Et on peut dire, il y a encore récemment... la première fois, c'était en 87, quand un grand journaliste et critique littéraire polonais, Jan Blonski, a écrit un texte de critique dans lequel il a parlé de la co-responsabilité morale et politique des Polonais face à l'assassinat des Juifs. Et aujourd'hui, c'est une question qui est souvent, très souvent soulevée, qui entraîne tout le temps des débats d'ailleurs. Mais aujourd'hui, du point de vue des prises de position officielles, je crois que c'est clair.
Alors, Jacques Potel, revenons à la Pologne. Aujourd'hui, vous racontez une anecdote pour montrer quand même la permanence d'un certain sentiment antisémite dans des parties de la population polonaise. Une anecdote très simple, l'anecdote du chauffeur de taxi dans les rues de Varsovie, où le simple mot juif, le nom juif, devient une injure lors d'une altercation entre deux taxis dans les rues de Varsovie. Aujourd'hui.
Oui. Non, mais il y a en Pologne un antisémitisme qui est réel, qui se cache d'ailleurs souvent dans le langage, que moi je considère comme un antisémitisme infrapolitique, c'est-à-dire que aujourd'hui il n'y a pas de courant politique, y compris la droite dure qui est au pouvoir, qui soit antisémite dans son expression. Il y a quelques prédicateurs antisémites, encore que c'est toujours des gens qui le font de façon cachée, masquée. par allusion, mais vous me direz l'antisémitisme.
On les retrouve notamment sur les ondes de Radio Maria.
Oui, mais vous me direz l'antisémitisme, c'est toujours par allusion, c'est jamais directement, c'est avec les nazis qui faisaient des choses. Mais il reste que cet antisémitisme reste pour l'instant légèrement et infra-politique. Et il y a un courant, donc c'est présent dans le langage, et il y a des gens qui se battent contre l'antisémitisme en Pologne. Et le fait important, c'est probablement que il y a plus de gens aujourd'hui qui se battent contre l'antisémitisme qu'avant et que de gens qui se disent antisémites.
On en est où dans l'examen de conscience de la hiérarchie catholique en Pologne ?
Alors, la hiérarchie catholique en tant que telle, c'est une question qui n'est pas propre à la Pologne. En fait, c'est la question du Vatican. C'est l'attitude de... Jean-Paul II, qui vient de l'Église catholique polonaise, a eu une influence très très forte sur cette question. Et je dois dire que la plupart des gens qui travaillent sur la mémoire juive aujourd'hui en Pologne sont généralement des catholiques, qui sont en fait des enfants de Jean-Paul II pour une grande partie. Donc là-dessus, il y a eu un point très important. Mais la hiérarchie a des traditions, et il est vrai aujourd'hui que les historiens polonais mettent toujours encore sur la sellette cette question de l'attitude de l'Église, parce qu'il est vrai que le clergé et les moines et les ordres monastiques ont beaucoup aidé de juifs en Pologne, mais il y a aussi des prêtres qui ont dénoncé des juifs. Mais surtout, je crois que l'attitude principale, c'est moins la question des prêtres à la base qui ont été un peu comme tout le monde, que le rôle qu'a pu jouer le cardinal Sapieha, qui était le chef de l'Église en Pologne, parce que le grand chef était à l'étranger, était en France, et deuxièmement, le rôle qu'a joué Pie XII à cette époque-là. Et ça, je crois que, c'est-à-dire leur non-rôle, c'est-à-dire de ne pas dénoncer ce massacre, et ça, je crois que c'est encore ouvert, et c'est probablement le tome suivant des débats en Pologne.
Alors, Jean-Yves Potel, on a beaucoup commémoré ici en France le mai 68, hein, l'an dernier. Vous citez une autre date importante après la commémoration du massacre de Jevadné qui a servi de point de départ à notre conversation, qui est la date de mars 1968 en Pologne, le mars juif. Il est resté après-guerre, je crois, aux alentours de 80 000 juifs en Pologne. Et donc à ce moment-là, en mars 1968, campagne antisémite lancée par le pouvoir communiste qui invite les juifs à quitter le territoire polonais, ce qui fait qu'aujourd'hui il reste 20-25 000 juifs en Pologne.
Oui, avant 68, il y avait un peu moins parce qu'il y avait eu d'autres vagues avant, enfin passons, mais il y avait à peu près 40 à 50 000 juifs. Il y avait encore une vie juive, par exemple des écoles, des choses comme ça. Mais le gouvernement, enfin dans l'appareil communiste, il y a eu une lutte de pouvoir avec une fraction de cet appareil qui reprenait ses racines d'ailleurs dans les courants nationalistes ou qu'on pourrait appeler même national-communistes polonais. Et ce courant, qui était dirigé par le général Moczar, qui était le ministre de l'Intérieur, a pris prétexte de la guerre des six jours et de la sympathie qui existait dans l'intelligentsia et dans une partie de la société polonaise pour l'État d'Israël, pour dire que, alors que vous savez que bien sûr que le bloc soviétique avait été pro-arabe dans cette guerre, pour attaquer les juifs et les accuser d'antisionisme. Et ça a été effectivement une grande campagne antisémite qui a donné lieu au départ de 13 000 juifs de Pologne. C'est ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Et donc ça a été un grand moment. Et ce moment, juste un mot pour conclure sur ce point, ce moment est un moment fondateur de la génération qui est aujourd'hui au pouvoir en Pologne. Que ce soit des juifs ou des non-juifs, beaucoup de gens, y compris des gens de droite, aujourd'hui ont été marqués par cette affaire et ont compris ce que c'est, et justement, parce que l'antisémitisme a été marqué comme un geste du pouvoir communiste, et je crois que ça a beaucoup marqué l'opinion, et c'est pour ça que cette année, par exemple, enfin l'année dernière, pour l'anniversaire, il y a eu ce mars juif, beaucoup de manifestations, et on a redonné définitivement la nationalité polonaise à tous les juifs qui avaient été expulsés.
Alors, Jean-Yves Potel, une dernière question, je vais demander une réponse très courte. Il y aura une réalisation d'envergure, là aussi très symbolique, prochainement en Pologne, à savoir le futur musée de l'histoire des juifs polonais qui sera construit à Varsovie, juste à côté du monument en l'honneur de l'insurrection du ghetto.
Ce musée qui aujourd'hui est en train d'être construit, c'est un peu l'aboutissement de cet ensemble. Il présentera l'histoire des juifs polonais, c'est-à-dire depuis 1000 ans, et pas simplement les Juifs qui sont en Pologne, y compris les Juifs polonais qui, d'origine polonaise qui peuvent être en France ou en Israël ou aux États-Unis. Et c'est un musée narratif, c'est-à-dire qui, avec des objets et des tableaux et des, et racontera l'histoire de cette histoire. Et deuxièmement, un musée éducatif, ça sera un centre d'éducation un peu à l'image, je sais pas, ce qu'on a ici en France avec le musée d'histoire du judaïsme, qui d'ailleurs qui collabore avec le musée de Varsovie ou le mémorial de la Shoah qui collabore avec le musée aussi.
Jean-Yves Potel, je vous remercie. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous venez de nous donner, La fin de l'innocence, la Pologne face à son passé juif, paru aux éditions Autrement. Conversation passionnante aujourd'hui que nous allons continuer la semaine prochaine. Ensemble, Jean-Yves Potel, nous évoquerons notamment un cycle de films qui aura lieu au début du mois de novembre, Pauline, la mémoire de la Shoah dans le cinéma polonais aujourd'hui, cycle qui sera présenté au mémorial de la Shoah. C'était Mémoire vive, une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, une émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de RCJ, www.radio-rcj.info, sur le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, et enfin, avec toutes nos émissions en archive, sur le site mémoirevive.net.